Radio Kapi.
Il quitte officiellement l'Union Sacrée et se déclare candidat à l'élection présidentielle de 2023, Luis Moïse Katumbi Tchapwe. Il a fait savoir hier sur les chaînes internationales France 24 et Radio France Internationale. Et puis le village Bitadiloasa, situé dans le territoire de Kenge, province du Kwango, assiégé par plus de 50 hommes armés. L'alerte est donnée par le cadre des concertations provinciales de la société civile. Son président, Lucien Lufutu, appelle à l'intervention pour sécuriser la population qui vit dans la psychose totale. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Koulibaly Dorotier, conseiller politique au bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Il revient sur la mission assignée à la cellule opérationnelle de contact et de coordination en rapport avec le désarmement et les rapatriements des groupes armés étrangers. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Moïse Katumbi quitte officiellement l'Union Sacrée et déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Le président d'Ensemble pour la République l'a annoncé hier vendredi dans une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale. « Je suis candidat car la situation du Congo est chaotique et car je dois sauver un peuple en danger », affirmait-il. On écoute Moïse Katumbi au micro de Christophe Boisbouvier et Marc Perelman dans cet extrait que nous propose Pelé Kipelamondo.
« Je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au Congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Donc j'ai dit au revoir à l'Union Sacrée, mais je dois aussi consulter le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, et c'est ça la démocratie, ceux qui partent vont laisser la place aux autres, mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur.
Et puis, le comité de suivi des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, COSAS, a lancé ses activités jeudi à Mbandaka en vue de son implantation à l'Équateur. Selon le coordonnateur national Lambert Loalo Mputu, sa structure a pour mission de faire le suivi citoyen de différents projets socio-économiques et de développement initiés par l'institution présidence de la République en vue de leur réalisation effective. Avec cette implantation, il estime que la province de l'Équateur bénéficierait désormais d'un suivi éclairé à la base pour l'aboutissement heureux de tous ces projets communautaires. Le coordonnateur du COSAS, Lambert Loalo, l'a expliqué au micro de Paul Richard Malingela.
Ma présence veut des options. La première, c'était juste équiper nos agents, nos membres qui sont ici pour savoir comment ils peuvent faire le suivi de décisions, des actions menées par l'hiérarchie et puis de le mettre en collaboration avec les autorités locales parce qu'ils ne sont pas des ennemis. Et puis deuxième, c'était de lancer officiellement ces activités ici parce que nous ne voulons pas que Mbandaka reste comme un chantier toujours, mais nous voulons que lorsqu'il y a des opérations, lorsqu'il y a des actions, lorsqu'il y a des programmes, que ces programmes-là puissent arriver à la fin. C'est ça le développement de notre pays. Nous voulons d'abord suivre l'état des droits. Est-ce que l'état des droits est respecté? Vous avez suivi à plusieurs reprises comment le chef de l'État il est tenté d'ailleurs de se lamenter par rapport au niveau de la justice. Et nous sommes là pour voir si réellement l'état des droits est respecté et tout le monde est au même niveau sur le plan économique. Et sur le plan développement, est-ce qu'il y a des orientations qui peuvent permettre que le pays soit développé d'une manière économique, l'esprit de créativité des autorités locales, tout ça, nous sommes là par rapport à ça.
Autre nouvelle, l'Union des Républicains donne son point de vue sur des sujets d'actualité. C'est notamment la rencontre de Nairobi, les massacres de Kichiché et autres tueries dans le Grand Bandundu ainsi qu'à Maluku ici à Kinshasa. Également, les élections qu'il estime impossibles à tenir dans le délai dans un pays sous occupation étrangère. Ce parti appelle aussi à rechercher les causes profondes de ces massacres et à sanctionner. Suivez un extrait de son président national, Norbert Louyeye, au micro de Babel Pongo Massimango.
Quand au carnage de Kiswese, massacres qui se poursuivent pour nous, la responsabilité est partagée entre le pouvoir et le M23. D'où il faut chercher la cause principale de ces massacres plutôt que de s'atteler sur les faits et sanctionner. On ne peut pas parler de la tenue des élections dans un État sous occupation étrangère. Il est impossible d'organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le village de Bita Diloasa, situé dans le territoire de Kenke, province du Kwango, est assiégé pour le moment par plus de 50 hommes armés non autrement identifiés. Le cadre de concertation provinciale de la société civile qui alerte indique que la présence des personnes qui sont dissimulées dans le village crée la panique totale dans le chef de la population. Lucien Lufutu, son président, en appelle à l'intervention des autorités attitrées pour sécuriser la population. Du côté des autorités territoriales, leur assure que les services de sécurité sont en alerte pour suivre de près cette situation. Le tout avec Irène Mbouma.
Selon les sources de la société civile du Kwango, cela fait déjà plus de 6 jours que la présence de ces hommes armés est remarquable à travers tous les villages Bita Diloasa situés dans le territoire de Kenge, à près de 60 kilomètres de la mission de Bukangalonzo en allant vers Fatundu Okwilu. Toutes les voies d'entrée et de sortie de cette localité sont bloquées par ces personnes non autrement identifiées et dont l'agenda reste jusque-là caché. Situation qui crée déjà la psychose auprès des habitants qui craignent pour leur sécurité, comme le dit Lucien Lufutu, président de cette société civile.
Une cinquantaine d'assaillants, ils ont assiégé le village. Depuis lors, il n'y a pas d'entrée ni sortie. Avec leurs armes, ils se sont installés. Nous lançons ces cris d'alarme pour que la sécurité joue pleinement son rôle. Veiller pour sécuriser la population de Bita Diloasa. Nous sommes dans une psychose sans précédent.
L'administrateur sortant du territoire de Kenge qui confirme cette information précise que des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population. Kanzundu Mbaya Placide.
Les dispositions sécuritaires sont telles que nous sommes en état d'alerte, les services de sécurité sont sur place, ils veillent, ils contrôlent les mouvements de la population.
En attendant, l'autorité territoriale appelle la population au calme et à la vigilance. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, au Nord Kivu, les rebelles du M23 gardent toujours leur position dans la zone qu'ils occupent en territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Cette mise au point est faite hier vendredi par différents acteurs civils se trouvant dans le Rutshuru. Ces sources démentent l'information qui circule depuis jeudi à travers les réseaux sociaux dans la région. Les informations selon lesquelles les rebelles auraient retiré certains de leurs combattants des positions occupées, dont les blessés qui étaient à l'hôpital général de Rutshuru. Les sources de cette structure hospitalière parlent plutôt d'un mouvement de quelques blessés pour des soins ambulatoires, ce qui aurait donné une fausse alerte. Nos sources confirment cependant un mouvement de renforcement des positions des rebelles qui se poursuivrait encore au niveau des divers axes de la ligne de front. C'est notamment à Kibumba, territoire de Nyiragongo, Bwito et Binza, territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, la MONUSCO, à travers sa section appui à l'administration pénitentiaire, a remis une fourgonnette aux autorités de l'administration pénitentiaire militaire à Goma. Cette camionnette d'une capacité de plus d'une tonne est destinée à la prison de haute sécurité d'Angenga, située dans l'ex-province de l'Équateur. Cette donation vient répondre à la problématique des transports des détenus vers les juridictions à laquelle cette maison carcérale était confrontée depuis plusieurs années. Selon la responsable de la section appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, la valeur ajoutée de ces véhicules à cette prison est aussi la protection de la dignité des détenus lors de leur transfert des juridictions vers leur lieu de détention. Le responsable de l'administration pénitentiaire militaire du Nord Kivu, qui a personnellement réceptionné cet engin, explique l'importance et l'utilité de ces véhicules dans le contexte de la prison d'Angenga qui regorge à ces jours des prisonniers les plus dangereux de la République démocratique du Congo. Écoutons le colonel Jean-Christophe Ngilimu.
Comme vous le constatez, c'était fourgon. Si on ouvre, il y a deux bancs là-bas parallèles. C'est destinée au transport des détenus. Rien n'empêche que ça puisse aussi servir à d'autres fins en cas de nécessité. Parce que la donation est faite ici à Goma. Et je représente le directeur de l'administration pénitentiaire militaire, qui est notre hiérarchie au niveau national. Et j'ai reçu des échauffeurs de sa part de recevoir ces véhicules. Et après, ils verront comment évacuer ça chez Kinshasa. Et à Kinshasa, ça pourra prendre le bateau pour la prison militaire d'Angenga à Lissal. C'est de remercier la MONUSCO qui nous a toujours accompagnés, qui a toujours appuyé l'administration pénitentiaire militaire à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire. Autrement dit, la MONUSCO nous a accompagnés à travers des années et ce n'est pas la première fois. Elle a déjà fait beaucoup de choses à part cette donation de jour.
Et puis jeudi à Kalemi, dans le Tanganyika, la MONUSCO a remis un troisième lot de matériel logistique à la police. Il s'agit d'un appui à une centaine de policiers qui sont déployés dans la cité de Bendera, à plus de 100 km de Kalemi. D'après des sources, ce déploiement des policiers est fait en prévision du retrait de la MONUSCO de Bendera. Les détails avec Paulin Munanga.
Des sources renseignent qu'une partie des éléments additionnels de la police est déjà arrivée dans la cité de Bendera et une autre est attendue dans quelques jours. La MONUSCO assure la logistique et la ration alimentaire de ces éléments qui sont déployés à Bendera. Elle a aussi facilité le transport par avion des policiers de Kinshasa jusqu'à Kalemi. Et la mission des Nations Unies a donné notamment des tentes, des lits de campagne, des sacs à couchage, des sacs à dos, des gants tactiques, des réservoirs d'eau de 3000 litres, ainsi que des vivres et ustensiles de cuisine. Les mêmes sources indiquent que la MONUSCO a aussi disponibilisé du carburant pour aider dans les transports par route des matériels et vivres, ainsi que des éléments de la police jusqu'à Bendera. Des sources signalent que le déploiement de ces éléments de la police à Bendera intervient dans le cadre du renforcement des dispositifs sécuritaires dans la perspective du retrait de la MONUSCO dans la cité de Bendera. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la députée nationale Christelle Vuanga a déposé jeudi 15 décembre au bureau de l'Assemblée nationale, peu avant la clôture de la session ordinaire de septembre, une proposition de loi portant prévention et protection des personnes drépanocytaires. Dans son exposé des motifs, l'élu de la FUNA dans la ville de Kinshasa rappelle que la RDC est le troisième pays affecté mondialement et le deuxième en Afrique par des cas de drépanocytose, mais aucune politique n'est mise en place par le gouvernement en faveur des drépanocytaires. Pour Christelle Vuanga, cette loi vise à emmener le gouvernement à mettre en place une politique de prévention des nouveaux cas de drépanocytose et surtout des prises en charge gratuites des cas existants. Christelle Vuanga est au micro de Michel Kifindangoy.
La RDC est le troisième pays le plus affecté mondialement et le deuxième pays en Afrique après le Nigeria, avec vraiment beaucoup de drépanocytaires, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas de vraies politiques étatiques pour essayer de réduire cette maladie, cette déformation génétique. Et sur le plan de la protection, évidemment, nous avons fait le droit comparé avec, par exemple, les lois sur le VIH. Les personnes qui sont atteintes du VIH sont protégées. Ils ont une loi spécifique. Aujourd'hui, ils reçoivent des ARV gratuitement, tandis que les drépanocytaires ne reçoivent pas des médicaments. Et il y a un médicament qu'ils prennent quotidiennement, c'est l'IDREA. Actuellement, l'Angola donne ces médicaments gratuitement. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de troisième âge.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. En marge de cette journée, l'ONG internationale OCISA ainsi que le réseau des ONG d'action en santé mentale ont tenu une conférence de presse ce vendredi 16 décembre à Kinshasa en guise de deuxième activité liée à cette journée. Objectif, sensibiliser l'opinion politique sur les questions liées à ce secteur. Kelly Yoka nous en dit plus.
Sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. Tel est le slogan de cette journée dédiée à la santé mentale. Ali Djoukendi, médecin neuropsychiatre et coordonnateur des réseaux des ONG en santé mentale, explique la différence qui existe entre santé mentale et maladie mentale.
Parce que quand on dit que les gens ont problème de santé mentale, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, ça concerne les autres que les gens qui présentent des troubles mentaux. Alors que la santé mentale a trois continuums. Le premier continuum où vous avez les maladies mentales. Le deuxième continuum, c'est la détresse psychologique. Allez-y comprendre ce qui s'est passé mardi dernier avec la pluie. Les gens sont inondés, les gens sont morts. Ça a fait une détresse psychologique dans toute la population. Et enfin, le troisième continuum, c'est le dysfonctionnement social.
Une activité qui a édifié la santé mentale des participants.
J'ai retenu qu'il faudra commencer par la santé du bébé. Je veux dire la santé de la mère qui porte le bébé. Pendant les 5 ans, l'enfant doit être suivi sur le plan nutritionnel afin qu'en grandissant, il puisse avoir une bonne santé mentale.
Selon les estimations de l'OMS, 400 millions de personnes dans le monde et en RDC souffrent des troubles mentaux, neurologiques ou encore des problèmes liés à l'alcool ou à la toxicomanie.
Autre nouvelle dans la province du Maniema, suite aux morts en cascade des petits ruminants à Samba dans les territoires de Kasongo depuis le début de cette semaine, l'inspecteur provincial de pêche et élevage exhorte la population de ces coins de ne pas vendre ou consommer la viande provenant de ces animaux trouvés morts sans en connaître la cause. Moïse Osombaluta rassure par la même occasion la population qu'ensemble avec le gouvernement provincial, ils sont à pied d'œuvre pour arrêter cette hémorragie. Moïse Osombaluta parle au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, à Samba, il y a mort des petits ruminants déjà annoncés. Et la première des choses que je vais demander à la population victime de cette mortalité des petits ruminants, c'est d'abord rester calme et de ne pas consommer la viande provenant de ces animaux qui meurent sans qu'on en connaisse avec précision la cause. Et deux, ne pas vendre la viande provenant d'animaux morts naturellement comme ça au marché ni entre eux à la maison, mais plutôt détruire cette viande et le moment venu nous allons prendre des dispositions en ce qui concerne l'identification de la maladie. À part les conseils que nous venons de donner, c'est plutôt, vous savez, l'élevage des petits ruminants, c'est ce qui construit l'économie familiale, l'économie dans les ménages. Et quand les petits ruminants meurent en cascade, l'économie de ménage est en mal et il faut la sauver. C'est ainsi qu'avec le gouvernement, nous cherchons à trouver des moyens pour pouvoir venir à la rescousse de cette population qui est déjà victime de cette mortalité inhabituelle des petits ruminants.
Actualité internationale.
En international, la tension diplomatique est montée d'un cran entre Ouagadougou et Accra. Après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui affirmait en marge du sommet Afrique-États-Unis que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents chez son voisin. Mais à l'issue de leur entretien, les diplomates ghanéens et les ministres burkinabés ont affiché une volonté d'apaisement.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le conseiller politique au bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Koulibaly Dorotier revient sur la mission assignée à la cellule opérationnelle de contact et de coordination sur les mesures non militaires en vue de faciliter le désarmement et le rapatriement des groupes armés étrangers. La délégation est composée des experts de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Koulibaly Dorotier s'entretient ici avec Jean Kassami. Suivez.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Bukavu à la tête d'une délégation. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes à Bukavu?
Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires, en abrégé GCC. Le groupe de contact est un mécanisme donc qui a été mis en place par les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba et il est soutenu par le bureau de l'envoyé spécial, mais aussi par la CIRGL, l'Union africaine. Et c'est un groupe qui est également facilité au niveau national par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre et bénéficie aussi de l'appui technique et logistique de la MONUSCO. Alors, le mandat de cette cellule, tel que conféré par les pays signataires de l'accord cadre, consiste à approcher tous les groupes armés étrangers en vue de présenter l'opportunité régionale offerte par les pays de la région pour leur désarmement et leur rapatriement sans condition politique. Donc le groupe a pour mission de faciliter le désarmement et le rapatriement de ces groupes armés étrangers. Donc dans ce cadre, la cellule va présenter aux groupes armés l'opportunité, les assurances, les mesures, les garanties qui sont apportées en vue de les rassurer et favoriser donc leur rapatriement dans leur pays d'origine. L'un des éléments importants aussi qu'il faut souligner dans le mandat de ce GCC, c'est qu'il a une mission post-rapatriement. Autrement dit, tous ceux qui vont adhérer au processus de rapatriement seront suivis dans leur pays d'origine. Identifiés convenablement, suivis, des mesures seront prises pour renforcer les capacités, autant que possible en tout cas, des pays de retour pour assurer leur réinsertion et leur réintégration dans la société. Voilà un peu le mandat de ce groupe et je peux peut-être déjà ajouter que, comme vous le savez, la question de la présence des groupes armés étrangers est identifiée comme une des causes majeures de l'insécurité dans la région. Et donc, au moment où le processus de Nairobi s'accélère pour cibler les groupes armés locaux, il est paru important pour les garants de l'accord cadre de redoubler d'efforts pour que ce processus qui vise les groupes armés étrangers puisse également prendre forme et être actif sur le terrain dans la perspective d'une solution globale au problème.
Alors, aussitôt arrivé à Bukavu, vous avez pris langue avec quelques personnalités politico-administratives et sécuritaires, les responsables de la MONUSCO. Avec tous ces mondes-là, certainement que vous avez évoqué ce que vous attendez d'elle.
Votre micro me donne l'occasion de préciser que notre mission a débuté en Ituri, où nous avons donc rencontré les autorités provinciales, les acteurs locaux, la société civile, les leaders religieux, toutes les couches sociales. Et nous sommes également à Bukavu pour le même objectif. Et en fait, l'idée, c'est de présenter le mandat de la cellule opérationnelle aux acteurs et d'identifier des canaux de coopération avec eux, recueillir leurs conseils, leurs avis sur les meilleurs moyens d'accomplir notre mission. Et je dois dire que nous sommes vraiment satisfaits. La MONUSCO est partie au groupe de contact et a pleinement soutenu les moyens logistiques pour qu'on puisse mener cette mission. Les autorités provinciales nous ont réservé un bon accueil. Nous bénéficions aussi de leur encadrement, leur sécurité. Nous sommes globalement satisfaits, mais le plus important, c'est que toutes les autorités que nous avons rencontrées sont unanimes sur l'opportunité de ce mécanisme visant les groupes armés étrangers.
Nous vous remercions.
Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce processus qui est vraiment important pour l'envoyé spécial. Je pense qu'avec votre appui, on pourra en tout cas apporter notre modeste pied à l'édifice. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination et la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci également à vous pour votre particulière attention.